Amen. Merci Manu. Merci à toute l'équipe de nous avoir conduits dans la louange. Merci au Seigneur pour sa présence. C'est tellement bon vraiment être dans sa présence. Et je suis tellement encouragé. Quand je réalise personnellement dans ma vie en général que j'avance, que je progresse, que je découvre, on n'a jamais fini d'apprendre, que je suis transformé, que je vais de l'avant, et je suis tellement encouragé aussi, parce que c'est le cas en tant qu'Église, en 3 ans qu'on a déjà avancé, et je vois que Dieu nous parle intentionnellement, culte après culte, mois après mois, et qu'il a une intention, qu'il nous amène quelque part, c'est pas juste des réunions toutes seules, comme ça, comme un patchwork qui n'a pas de sens. Dieu, il est là, il nous guide, et il nous amène quelque part, on découvre, on progresse, on avance, et en ce début d'année, on a eu un tout premier culte de louange où il y a différentes impulsions prophétiques qui ont été données, notamment axées sur le fait d'aimer Dieu de tout notre cœur. Et d'ailleurs, on a été dirigé aussi ce matin avec différentes pensées dans ce sens, d'aligner notre cœur comme un vase ouvert, complètement ouvert, comme sous ce robinet d'amour et d'onction, et pas à moitié ouvert, mais vraiment de s'aligner dessous pour être complètement impacté et touché par cet amour, cette onction de Dieu qui coule. Et 2 semaines plus tard, j'avais surfé sur cette pensée du culte avec un message sur la puissance de l'amour, d'aimer Dieu plus que tout, en réalisant son amour sans condition pour nous, et que ça nous donne vraiment de nous aimer vraiment nous-mêmes. Et j'avais vraiment partagé, et je vais juste chercher la petite télécommande qui nous permettra de suivre avec un visuel qui doit être je ne sais où. Merci, la télécommande qui a cours. Et je vous avais donné un peu cette punchline que si on réalise que Dieu nous aime alors qu'on est encore imparfait, on va s'aimer soi-même, on va réussir à s'aimer soi-même même si on est imparfait. Et on va pouvoir même aimer l'autre alors qu'il est imparfait. Et on avait vu aussi ensuite que si tu as vraiment réalisé que Dieu, il a tout payé pour toi et qu'il a payé pour tous, tu ne peux pas laisser les autres passer à la caisse ou payer de leur vie sans leur dire qu'il a déjà tout payé pour eux. Et il y a 2 semaines, je vous ai partagé un message qui était intitulé « Déclencher le réveil ». Alors n'hésitez pas à aller l'écouter sur notre site pour le réécouter. Je ne dis pas ça pour faire de la pub, j'ai été moi-même le réécouter, mon message. J'aime bien le faire parce que j'ai tellement envie d'être impacté davantage par cet amour de Dieu. Ce n'est pas juste du blabla, ah, c'est cool, on a assumé de parler 30 minutes, ce n'est pas du tout ça. Mais d'être saisi par cet amour dans nos entrailles pour que Dieu se manifeste, que son onction se manifeste, pour que ce réveil vienne. J'ai envie de ça pour ma vie, j'ai envie de ça pour cette église, pour cette région. Et on a vu en fait que cette parabole raconté par Jésus, c'était la réponse à une question à la base, et que le but premier, c'était pas juste de nous encourager à avoir de la compassion et de nous occuper des autres, même si c'est le cœur de Dieu aussi et que c'est bien. Mais cette parabole, c'était la réponse à une question: comment avoir la vie éternelle? Et Jésus répond ensuite sur le fait d'aimer Dieu de tout son cœur et par cette parabole. C'est-à-dire comment vivre cette vie éternelle maintenant déjà sur terre, sans limite de temps, sans limite naturelle. C'est-à-dire une vie surnaturelle, une vie du ciel remplie de vie, une vie de réveil. Et on a vu que ce n'était pas juste la vie après la mort, mais c'est la vie abondante que Dieu désire qu'on puisse déjà vivre maintenant. Comment vivre le réveil? C'est en laissant l'amour de Dieu prendre toute la place en nous, remuer nos entrailles, nous bouger, et que ça libère une vie sans limite. Ça libère le miraculeux. Et on a vu toutes les fois où Jésus a guéri des malades, ou fait des miracles fous comme multiplier des pains, des poissons, etc. Il était à chaque fois ému de compassion avant. Il était ému de compassion. Et ensuite, il y a un miracle qui se passe. D'ailleurs, on voit dans les évangiles qu'à chaque fois que Jésus est ému de compassion, et combien de fois on le voit, il s'ensuit un miracle. Et ce n'est pas un hasard. Mais la compassion, c'est le déclencheur pour vivre cette puissance de Dieu. Et être ému de compassion, être saisir, muet là où le siège de l'Esprit de Dieu est en nous, parce qu'il n'est pas dans notre cerveau ou que dans nos émotions, il est là, au milieu de nous. Et là, il va nous toucher, nous remuer, c'est fort l'Évangile. Et ce matin, moi j'ai envie d'aller plus loin, et on va voir un peu dans la suite de mon précédent message. Je vous avais dit que c'était un peu comme 2 parties, mais si vous n'aviez pas été là la fois passée, c'est pas pas de souci. Je vous ai un petit peu résumé et ça permet ensemble d'aller plus loin. Parce que justement, la parabole du Samaritain, elle ne s'arrête pas là où on l'a laissée. Et si Jésus continue cette parabole, c'est que la suite, elle a un sens aussi. Sinon, il se serait arrêté de parler. Il ne parle pas pour rien, Jésus. Il aurait pu s'arrêter au fait que, contrairement aux deux premiers passants, le Samaritain, il s'est approché du blessé et puis il s'en est occupé. Et puis qu'être remué dans nos entrailles, c'est une réponse de comment vivre la vie éternelle, ce réveil. Ça parle déjà assez. Mais si la parabole continue, c'est qu'il y a de quoi en retirer quelque chose. Sinon, il n'aurait pas forcément donné ces éléments. Et si je vais prendre ces aspects aujourd'hui, c'est que souvent, la dernière partie d'une histoire, ou d'un paragraphe, ou d'un chapitre, d'une lettre, ben souvent, ça donne toute sa dimension. Et ça donne la dimension, le volume, l'importance à ce qui est donné. Et c'est pour ça qu'en voyant aussi la fin de cette parabole, ça va nous parler. Je désire pas juste parler de la pointe de l'iceberg qu'on connaît tous de cette parabole, mais de la totalité de la pensée de Jésus. Parce que moi, j'ai envie de la vie totale, alors j'ai envie d'entendre les pensées entières de ce qu'il a donné. Et surtout cette fin qui consolide pour moi la réponse de comment déclencher un réveil. Qu'elle soit cette réponse, qu'elle soit agréable ou bien qu'elle picote parfois un petit peu, moi je veux tout. Saint-Esprit, si tu me picotais un petit peu, puis me challenger, je le veux parce que je veux ce réveil. Je ne veux pas juste être caressé dans le sens du poil ce matin, mais j'ai envie d'être touché, d'être boosté et de rentrer dans ce que Dieu veut. Mais avant vraiment d'aller plus loin encore dans cette parabole, j'aimerais encore prier. Et Seigneur, je te prie ce matin que tu nous amènes et que tu m'amènes plus loin. Je te prie, Seigneur, que ta parole qui est vivante vienne comme transpercer, Seigneur, nos cœurs et nous faire remuer, Seigneur, ta présence dans nos entrailles. Merci pour cet enseignement puissant qui nous dit que par l'amour qui est en nous vient se manifester, vient amener de la compassion et que ça déclenche sur cette vie abondante, cette vie éternelle, cette vie de réveil. Mais Seigneur, je te prie ce matin de continuer de nous parler parce qu'on ne veut pas couper la parabole avant la fin, c'est-à-dire qu'on ne veut pas te couper la parole. Mais on aimerait, Seigneur, que tu puisses dire ce que tu veux nous dire entièrement. Et Seigneur, que tu puisses vraiment ouvrir notre compréhension spirituelle pour saisir la vérité, Seigneur, qu'il y a derrière cette image que tu racontes. Et viens, Saint-Esprit, merci parce que tu es déjà là pendant ce temps de louange, tu as parlé par des pensées, il y a une direction. Et Seigneur, je te prie de continuer de parler. J'aimerais libérer ce matin vraiment la révélation, ta vie, une passion, un amour, un feu, un esprit de vie et de réveil. Cette vie abondante, cette vie éternelle puisse vraiment saturer ce lieu entier. Amen. Et je vous passe donc toute la partie de la parabole qu'on a déjà vue ensemble, que je vous ai juste résumée là, et qui est bien connue avec le prêtre et le lévite qui ne s'arrête pas auprès du blessé, et même qui passe à distance. Et il y a même des traductions qui disent « l'autre côté du chemin », c'est comme tu changes de trottoir. C'est-à-dire assez loin pour que tout à coup l'amour ne commence pas de bouger. Parce que moins tu vois les choses, moins peut-être que ça peut le toucher. Oh, pas maintenant, Seigneur. Tu vois, je vais au cinéma, le film il est bien, c'est pas le moment de remuer mes entrailles. Ou bien, oh, pas maintenant, Seigneur, je suis tellement claqué, tu sais que je dois finir les courses avant les 19h. Pas maintenant, Seigneur. Et pour pas vite être touché, on prend l'autre côté du trottoir. Et puis voilà. Mais pour vivre cette vie éternelle, pour répondre à la question que cet homme pose à Jésus, c'est non seulement, je crois, comme on l'a vu il y a 2 semaines, être saisi de compassion, mais c'est aussi être prêt à être saisi de compassion, avant qu'on arrive vraiment aux éléments que je veux dire ce matin, mais c'est aussi être prêt à l'être, et pas juste marcher à distance pour éviter d'être touché. Moi, c'est comme ça aujourd'hui, quand je vais dans la zone piétonne, puis que je vois qu'il y a quelques stands et tout, je vais de l'autre côté, pour pas qu'on me demande pour la pétition, je sais pas, pour sauver les baleines, je ne sais où, même si j'aime les baleines. Mais voilà, voilà. Je passe de l'autre côté pour ne pas être touché puis entendre le gars de Greenpeace qui me parle pendant 10 minutes et puis que ça commence à remuer ici. Non, ce n'est pas ça. Mais voilà, mais c'est un petit peu ce qu'ils ont fait. Puis parfois, on peut, dans notre façon d'être, on vit notre vie ou on la formate d'une façon, on ne va pas forcément être touché. Mais dans le cas d'être prêt d'être touché par ça, et dans le cas, par exemple, de la multiplication des pains que j'avais rapidement mentionné, Jésus, il était justement claqué et fatigué, donc il part en bateau pour aller ailleurs, au calme. Et quand il arrive, il voit que la plage, enfin l'endroit où il veut aller, la rive, est noire de monde. Mais il aurait pu encore changer de direction, puis d'aller ailleurs. Il n'a pas esquivé le fait que sûrement, s'il connaît son père et son esprit en lui, qu'il allait être touché. Et c'est là, quand il accoste, il est saisi dans ses entrailles, et là, le surnaturel est libéré. Il est dit qu'il prie pour tous les gens, ça dure tellement long, qu'ensuite il multiplie les pains, les poissons. Et alors qu'on va prendre la dernière partie de cette parabole, vous allez voir que le Samaritain, avant même d'être saisi dans ses entrailles, il ne s'est pas mis en position de l'éviter, de l'être. Dans Luc 10, il est dit « Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et il fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. » Et la suite qui nous intéresse ce matin, il est dit au verset 34 de Luc 10, « Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture et le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. » Ça fait agir le Samaritain. Il aurait pu être touché dans ses entrailles, pleurer, prier, parler à tous qui avaient un blessé. Non, il y est allé et il a fait la démarche. Il est mis qu'il s'approche. Et ce qui est intéressant, parce que le sens original du mot, hein, s'approcher, en fait, ça veut dire non seulement s'approcher, mais c'est le même mot aussi pour dire consentir. Il est saisi dans ses entrailles, ça remue, il s'approche, mais quelque part il consent aussi, il est OK, il est d'accord d'y aller. Il s'approche d'aller vers la personne. Et rappelons-nous que cette parabole, c'est la réponse au gars qui pose la question « Mais comment vivre cette vie éternelle ?» Donc il y a une démarche, une action qui est faite de la part du Samaritain. Et ce mot, ces mots s'approcha, c'est une clé pour moi pour vivre aussi ce surnaturel, se manifester. Non seulement d'être saisi dans nos entrailles, d'être touché, mais à un moment donné dire « Ok, je suis ok, je vais y aller, je m'approche, je consens. » Il y a ce déclencheur, j'appuie mon doigt sur l'interrupteur, je me lance, j'écoute ce qui remue en moi. Parce qu'on peut ressentir des choses, ça peut être émotionnel, mais aussi dans l'esprit, on ressent, et il écoute ce qui remue en lui. Et on a parlé la fois d'avant encore de l'amour qu'on laisse habiter en nous pour qu'il puisse bouger en nous, pour qu'on soit saisi dans nos entrailles. Et en fait, c'est comme un bébé dans le ventre. Je n'ai pas fait cette expérience, hein. Mais lorsqu'il est tout petit et puis qu'il bouge, le bébé, il est trop petit. Il bouge déjà, mais tu ne le sens pas bouger. Il est trop petit pour qu'on le sente. Mais quand ce bébé a grandi et puis qu'il bouge, ben la maman va commencer à le sentir, puis même le papa à côté ou quelqu'un qui pose sa main, tu vas sentir qu'il te fait du coude un peu. Lorsque cet amour grandit en nous, à un moment donné, on va le sentir bouger. On va sentir cet amour bouger en nous. Et c'est ça, être remué, ému dans nos entrailles. Comme tous les exemples où on a vu que Jésus, il était saisi dans ses entrailles. Et là, dans cette parabole, moi, ce qui me frappe, c'est que le Samaritain, il sent bouger. Il le sent bouger, le bébé. C'est-à-dire l'amour qu'il y a en lui. Le bébé amour, il est assez développé pour qu'il le sente bouger. Il a assez de compassion dans sa vie pour qu'il la sente quand elle se manifeste. Et là, moi, je me dis, et ça a été comme une révélation pour moi en préparant ce message, je me dis, mais si je ne sens pas l'amour bouger en moi, si je ne suis pas saisi dans mes entrailles, c'est que le bébé, il est trop petit. C'est que l'amour en moi, il est trop petit. Puis peut-être qu'il bouge, mais moi, je ne sens rien, je continue mon chemin. Je dis alors, Seigneur, viens faire grandir. Viens faire grandir dans le siège de ton esprit, de mon esprit en moi. Viens faire grandir cet amour qui prenne plus de place. Et Saint-Esprit, que quand ton amour bouge en moi, pour quelqu'un, pour une situation, moi, je le sens bouger. Et que je puisse entendre et dire, OK, consentir et m'approcher de ce que tu veux faire. Et là, le Samaritain, il sent l'amour se retourner dans tous les sens en lui, dans ses entrailles. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est OK, il s'approche. Il s'approche, il consent. Et c'est ça la démarche. Je crois vraiment que ça fait partie. Et c'est juste l'Esprit de Dieu qui bouge en nous. Et c'est pas juste Alléluia, le réveil, le surnaturel va tomber, la gloire de Dieu va tomber, les choses vont se manifester. Mais à un moment donné, il y a comme... Qu'est-ce que j'en fais de ce qui se bouge en moi? Et c'est ça, consentir, OK, m'approcher. Et maintes fois dans la Bible, et je ne vais pas reprendre tous les exemples, mais on voit que lorsque Jésus est ému de compassion, il y a une démarche de sa part après. Il y a quelque chose, il en fait quelque chose de ce qu'il ressent. Et c'est aussi tellement parlant, je fais juste une petite parenthèse avec ça, mais dans la parabole du fils prodigue, lorsque le père y voit venir le fils, il est mis qu'il est ému de compassion. La même chose dont on parle actuellement. C'est-à-dire qu'il est remué, le père dans cette parabole, il est remué dans ses entrailles. Le père, il n'attend pas simplement que les choses se fassent, les bras ouverts, l'exaucement du fils, enfin, la réponse tant attendue. Mais il est mis dans Luc 15, verset 10, « Le fils se leva et il alla vers son père, et alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. » Et qu'est-ce qu'il va faire? Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. C'est le Père qui court. Et le miracle de la restauration, le retour du Fils dans la maison, la grâce, ce nouveau vêtement, dont on vient de parler d'ailleurs avant, il lui met ce nouveau vêtement, le veau gras, la fête, l'abondance, la joie. Mais j'aime beaucoup, alors qu'on sait que le Père, c'est l'image de Dieu, que même lui, lorsqu'il est ému de compassion, saisi d'amour dans ses entrailles, il n'attend pas juste pour voir si le Fils va bien revenir jusqu'ici. Il court à sa rencontre. Il y a une démarche de la part du Père et il l'embrasse. C'est une démonstration de l'amour qui bouge et qui est tout à coup visible. Et il laisse exprimer, pas juste intérieurement, mais c'est comme un vrai détonateur d'amour, un déclencheur. Et c'est marrant parce qu'il est mis que le Père est ému de compassion, puis il court. Et d'ailleurs, ce mot « court » qui veut dire à la base, qui est très « court » en grec, ça veut aussi dire, dans le sens original, mettre ses forces pour réaliser ou atteindre quelque chose. Mettre ses forces. Et une fois que le Père il est saisi dans ses entrailles, il met ses forces pour réaliser quelque chose. Il se met en action. Il n'attend pas juste. Et il met du sien, comme on dit par chez nous. Il met du sien aussi pour que ce miracle se passe, ce retour du Fils. Et moi, je trouve que c'est vraiment parlant. Et je crois que lorsque Jésus répond à la question « Comment vivre la vie éternelle ?» c'est-à-dire comment vivre pleinement cette vie sans limite naturelle, cette vie surnaturelle, ce réveil, cette revie, en plus d'être remué dans les entrailles par cette compassion, il y a ce déclencheur intérieur de dire « Ok ». Et l'action suit. À un moment donné, c'est comme on se met en action, on y va. Et le Samaritain, il s'approche, ou le Père qui court, après avoir été ému de compassion. Et ils mettent leur force pour atteindre quelque chose. Ils y vont et c'est fort. Et moi, j'ai droit envie de dire maintenant, Seigneur, une fois que ton amour a grandi en moi puis que je sens ce bébé bouger, ben, je vais me laisser être saisi de compassion et je veux dire, ok, Seigneur, je fais ce pas de foi d'y aller et de répondre à cet amour. Je veux répondre à cet amour qui me fait du coude dans le ventre. Je veux répondre à ça. Et pas juste comprendre comment se déclenche cette vie surnaturelle, mais je veux être ce déclencheur. J'ai envie d'être ce déclencheur. Un déclencheur de vie, un déclencheur de revie, un déclencheur de réveil. Et c'est le titre de mon message ce matin, c'est être un revivaliste. C'est quoi un revivaliste? C'est un déclencheur de vie, de revie, de cette vie surnaturelle, de cette vie puissante. Et moi, j'ai envie d'être ce déclencheur. Quand je ressens quelque chose, j'ai envie de me mettre en marche pour ça. Et qu'est-ce que fait ensuite le Samaritain? Il est mis au verset 34, « Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. » Donc il s'occupe du blessé, il soigne ses plaies, il prend soin. Et qu'est-ce qu'il fait après? C'est qu'il verse de l'huile et du vin. Et l'huile et le vin, à l'époque, dans la culture juive et méditerranéenne, l'huile et le vin, c'était souvent utilisé pour des soins médicaux. L'huile avait des propriétés apaisantes et hydratantes, tandis que le vin était reconnu pour ses propriétés antiseptiques. C'était courant dans les pratiques de l'époque d'utiliser l'huile et le vin. C'est un peu moins cher que les médocs, quoi. Mais en restant dans le terre-à-terre, le Samaritain, il ne va pas juste s'arrêter là. Dans l'action, il va jusqu'au bout. Pas juste de s'occuper superficiellement du blessé. « Ah, j'ai prié pour toi, je me suis occupé de toi. » Le reste, le Seigneur s'en charge de la réponse. La réponse lui appartient, c'est pas faux. Hein. Souvent on prie, on se dit, ben c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui exauce, moi je prie. Mais on veut pas juste refiler la patate chaude au Seigneur, puis nous on s'en va. C'est pas ce qu'il a fait en tout cas. Comme on a vu, le Samaritain, il met du sien, il met ses forces pour que la guérison aussi elle se réalise. Et en fait, rappelons-nous qu'il était en route, c'est pas qu'il s'ennuyait puis qu'il errait dans la ville en sachant, en se demandant vers qui il allait prier. Il allait quelque part, les autres ont passé tout droit, mais lui il s'est laissé arrêter. Il est saisi dans ses entrailles, il dit « Ok, je m'arrête. » Là, il met du sien. Et le Samaritain, il soigne ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Et on a vu l'huile, dans son premier sens, c'est curatif, hein, pour amener la guérison, comme une pommade, quelque part. Mais si Jésus parle en parabole, ben c'est pour l'interprétation qu'il y a derrière. C'est pas pour, comme j'ai dit la dernière fois, inventer le cours samaritain, ou bien voilà, qu'on achète de l'huile d'olive dans le stand à la sortie. C'est pas ça, mais c'est pour quel est le message qu'il y a derrière. Ce n'est pas juste le côté curatif de l'huile et le vin. Mais dans la Bible, l'huile est le symbole de l'onction du Saint-Esprit. Et on le voit dans Exode 30:30, il est mis où le Seigneur dit à Moïse, « Tu oindras Aaron et ses fils et tu les consacreras pour qu'ils exercent mes fonctions de prêtre. » Il verse de l'huile sur eux comme une consécration au ministère, un symbole du Saint-Esprit sur eux pour le service. Ou bien encore dans 1 Samuel 16:13, où le prophète Samuel il consacre David comme roi et il verse de l'huile comme un symbole de cette présence, de cette puissance du Saint-Esprit, le consacre comme futur roi. Et là, la vie de David va changer du tout au tout, même s'il n'est pas encore roi. Rien que parce qu'il y a eu cette onction sur sa vie change déjà. Et Jésus, finalement, lui-même, va citer Ésaïe 61 dans Luc 4, quand il ouvre pas la Bible ni son smartphone, mais qui déroule le rouleau, il dit « Mais l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, parce qu'il a versé l'huile sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Et il continue pour dire « Pour guérir les cœurs brisés, libérer les captifs, amener une huile de joie au lieu du deuil. » Et ce mot « oint » parce qu'il m'a oint, c'est vraiment verser de l'huile, être consacré pour ça. Et Jésus avait cette huile, il était oint, il avait cette onction sur sa vie. Et l'appel de Jésus, c'est de répandre cette huile, de guérir les cœurs brisés, libérer les gens qui sont oppressés, guérir les malades aussi. Et l'huile, spirituellement et symboliquement, comme dans cette parabole d'ailleurs, c'est cette onction qui va amener la guérison, ou cette onction qui brise le joug, qui peut avoir sur les vies. Et lorsque Dieu habite en nous, qu'on y laisse toute la place, que cet amour grandit, puis qu'on commence à le sentir bouger, que ça nous amène dans un acte de foi, puis qu'on se bouge, Dieu va nous amener, comme le Samaritain, à faire quoi ? À répandre aussi cette huile, cette onction sur l'autre. Cette huile, c'est cette onction qui se déverse dans nos vies, mais aussi au travers de nos vies sur les autres. Comme l'huile des vierges sages, ben dans une autre parabole, contrairement aux autres, ben elles n'en avaient plus. Elles avaient utilisé l'huile pour elles-mêmes, elles n'en avaient plus. L'huile et l'onction, c'est tout un message en soi. Elle est abondante dans nos vies lorsqu'on se laisse être pressé. Vous savez, l'huile d'olive, l'huile vient quand on presse les olives et il en ressort de l'huile. Et l'onction se développe dans nos vies, dans l'intimité, lorsque, en étant pressé avec Dieu dans qui on est, et là, il nous transforme. Et l'huile, nos vies pressées dans sa présence, il y a une onction qui commence à venir. Ce n'est pas juste quelque chose parce que quelqu'un a prié pour nous une fois. C'est quelque chose qui se développe quand on prend du temps avec Dieu et qu'on laisse presser nos vies. Et d'ailleurs, c'est le pasteur Jentenzen Franklin qui a dit « Quand Dieu te presse, ce n'est pas pour te détruire, mais pour extraire l'huile précieuse en toi. » Et cette parabole, c'est en réponse à la question « Mais comment vivre la vie, ce réveil ?» que Jésus donne cette parabole, mais c'est en étant, comme on l'a vu, mais je le répète volontairement, en étant premièrement touché dans l'amour, en se mettant dans l'action, en écoutant cette compassion, afin de manifester l'onction de Dieu. Et cette onction, elle est là dans nos vies, lorsque régulièrement on prend du temps, on s'abandonne à Dieu, on le laisse nous presser, on le laisse nous transformer, comme on presse des olives, et il en ressort cette onction qui fait la différence. Et là, en préparant ce message, j'ai été halluciné en réalisant que dans Luc 22, lorsque Jésus va à Gethsémané, avant d'offrir sa vie pour nous, il est mis que Jésus priait avec angoisse et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Tout s'est joué à ce moment-là dans ce jardin de Gethsémané, quand Jésus il a dit « Mais Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, il est à bout, il n'en peut plus, il a un cheveu de lâcher. Tout s'est joué là, mais son amour pour toi et pour moi était tel qu'il n'a pas lâché, qu'il a tenu puis qu'il a dit « Mais Père, non pas ma volonté mais la tienne ». Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à ce moment-là, qu'est-ce que Dieu fait ? C'est qu'il envoie un ange pour le fortifier. Et Dieu veut te dire ce matin que tu ne vas pas être tenté au-delà de tes forces, mais si tu restes fidèle, il va venir te fortifier comme il a fortifié Jésus avec cet ange. Mais alors que tout s'est joué à Gethsémané, ce qui est fou, c'est que Gethsémané, ça signifie quoi en hébreu ? Ça signifie pressoir à huile. Ça signifie pressoir à huile. Et Jésus a vécu une extrême pression à la croix avec ce pressoir à huile, afin que l'onction de salut, de libération, l'onction de guérison soit accessible pour tous. Il a été dans ce pressoir à Gethsémané et il a été pressé pour que cette huile coule sur nos vies et pour que nous, on puisse déverser cette huile sur les autres. Alléluia. Et Jésus est le chemin. Il nous montre comment se donner pour que cette onction puisse couler au travers de nos vies. Et d'ailleurs, l'écrivain, l'auteur John Bevere disait d'ailleurs que l'onction, elle ne vient pas d'un confort spirituel, mais d'un cœur qui a été brisé et pressé dans la présence de Dieu. Et c'est ce qu'a vécu Jésus. Et nous, quand on se laisse transformer, qu'on vient devant Dieu, « Vas-y Seigneur, je ne veux pas juste réaliser ma vie, mon ministère, je veux juste être utilisé par toi, viens presser ma vie, viens me transformer, je veux te suivre. » Comme ce chant qu'on a chanté il y a 15 jours, « Make room », qui dit « Ici je viens déposer mes fardeaux, ma fierté, je veux m'abandonner. Je fais de la place pour toi, pour faire ce que tu désires. C'est exactement ça qu'a dit Jésus, pas ma volonté, mais la tienne, Père. C'est ça qu'on chante, mais c'est ça qu'on veut. Que ce chant, il résonne dans ma vie, dans ta vie. Et dans notre parabole, le Samaritain, il n'est pas en train d'expliquer aux blessés comment guérir, mais il verse l'huile. Comme cette onction dont on parle. Et si on veut voir plus de cette huile de guérison couler et guérir, c'est plus que le prêtre qui connaît la parole et puis qui est reconnu de tous les chrétiens. C'est plus que le lévite qui chante la parole, mais c'est d'aimer, c'est de demeurer dans son amour et de laisser cet amour en nous bouger. Et nous bouger aussi littéralement, intérieurement. Et contrairement, c'est faire ce pas de s'approcher, de proposer la prière en réponse à l'amour qu'on sent bouger. On va dire, mais moi, j'ai découvert ce Dieu d'amour, est-ce que je peux prier pour toi? Et là, l'huile pressée en nous, dans la présence de Dieu, dans le secret de ta chambre, dans les temps que tu prends que personne ne voit, ce que Dieu a pressé en toi va couler sur l'autre. Et ce qui est frappant, c'est que le Samaritain, lorsqu'il est remué dans ses entrailles, qu'il est OK, qu'il va de l'avant, cette huile, il l'a avec lui. Il l'a avec lui, cette onction. Il n'a pas dû aller vite en chercher d'urgence. Il n'a pas dû dire, ah, attends un petit coup au bord de la route, je vais vite chercher de l'huile. Non. Il l'avait. Il avait cette huile. Il était loin. Il avait cette onction. Il y a un besoin. Il répand l'onction qu'il a sur sa vie. Il l'a. Ça fait partie de sa vie. Il n'a pas dit d'attendre. Il ne part pas vite écouter un bon chant de louange ou un message boostant ou vite s'inscrire et faire un séminaire. Puis il revient enfin pour prier pour le gars. Et c'est là en lui. Il a tellement cultivé cette présence et cette onction qu'il verse l'huile et du vin sur le blessé parce qu'il en a. On priera tout à l'heure aussi pour que cette huile se déverse sur nous. Mais c'est plus qu'un moment de prière, c'est une culture de sa présence qu'on vit chacun, personnellement. La parabole nous dit que le Samaritain, il verse de l'huile et du vin. Et le vin, en plus de ses propriétés curatives, pas juste si on le boit, mais là, dans le sens si on le verse, hein, quel est son sens dans la parabole? Mais comme on fait pour l'huile, comme c'est bien de le faire, prenons la Bible pour interpréter la Bible. C'est d'ailleurs la première leçon. Hein. Presque à l'école biblique, interprétons la Bible avec la Bible. Mais Jésus nous donne le sens. Le vin, c'est le sang qu'il a versé. Quand dans Marc 14, 23, il est dit Jésus prit ensuite la coupe, comme il a fait, comme on a pu vivre avant avec la Sainte Seine. Il a pris son petit gobelet en plastique, sa coupe. Puis après avoir remercié Dieu, il la leur donna, et ils en ont tous bu. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance. Il est versé pour un grand nombre de gens. Et c'est ce sang de la Nouvelle Alliance, c'est la vie qu'il a donnée, qui amène le salut, qui amène la rédemption. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, on le voit, il est écrit d'ailleurs dans Hébreux 9, 22, à propos de l'Ancien Testament, que selon la loi, les péchés ne sont pardonnés que si du sang est répandu. Et dans Éphésiens 1, 7, il est mis « En Jésus, par son sang, nous sommes libérés du mal, rachetés, et nos péchés sont pardonnés. Tellement la bonté de Dieu est grande. » Et c'est le sang de la grâce qui est répandu. Et lorsqu'on a cette révélation qu'on a été nous-mêmes lavés sans mérite de nos efforts, mais grâce au sang de Jésus, qui a gracié nos fautes, on va aussi pouvoir libérer cette grâce autour de nous. Et la personne qui est blessée ou qui est mal en point, on va non seulement pouvoir verser cette huile d'onction qui va guérir son cœur ou qui va libérer ce joug de captivité, mais on va aussi répandre cette grâce, répandre ce vin sur lui. Cette grâce, ce salut. Le sang qui le lave, qui les lave. Sinon, on sent qu'on est lavé sans mérite. On va pouvoir aussi, comme j'ai dit au début, même si c'est quelqu'un qui ne le mérite pas, on va libérer la grâce sur sa vie. Mais Jésus ne s'arrête pas là avec cette parabole. C'est qu'il y a une raison aussi. Et dans Luc 10, il est mis que le Samaritain s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. C'est ce qu'on vient de voir. Puis, il le mit sur sa propre monture. Il le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Et le lendemain, le Samaritain sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste et dit « Prends soin de lui, est-ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai en retour. » Et je ne vous cache pas qu'avant, tout ce que Dieu m'avait parlé, que j'ai déjà prêché dimanche d'avant, je me suis dit ben, « Ces versets-là, voilà, c'est un peu la fin, c'est là qu'on presse pas sur une fois et demie ou fois deux, mais dans notre tête, on lit peut-être plus rapidement, en tout cas moi. » On a compris que Dieu voulait nous bouger par la compassion, on a compris ces choses-là. On pourrait s'arrêter là, mais je crois que cette fin, elle fait aussi toute la différence pour aller jusqu'au bout de ce que Dieu veut. C'est justement ces versets-là. Parce que la personne guérie et sauvée, elle n'est pas juste laissée comme ça. Le Samaritain, il a pris son temps. Il était en route, on l'a vu. Mais il a donné son temps pour la suite. Puis après avoir versé cette onction, cette huile, ce vin, il est mis que le Samaritain, il le prend sur sa propre monture. Alors on comprend bien au sens premier qu'il lui a passé son cheval ou son âne, et puis que lui, il marche à côté, puis qu'il porte le blessé. Aujourd'hui, sa monture, ben, j'espère pour vous, c'est plutôt une voiture qu'un cheval ou un âne. Sinon, on rajoutera du foin ici, devant la salle, pour les dimanches matins. Mais au sens spirituel et prophétiquement, la plupart du temps, lorsqu'il est question de véhicules ou de voitures, l'interprétation des rêves, ou spirituellement, c'est plutôt, il s'agit en général de notre appel, de là où on va, de notre ministère. Et c'est, là, c'est fort. C'est, rappelez-vous que c'est toujours la question comment vivre le réveil. Et qu'on est déjà à l'onction de guérison qui coule, le salut qui est répandu. Là, le réveil, ce n'est pas juste des gens qui sont guéris, qui sont sauvés. Parce qu'ensuite, ces nouveaux nés spirituels, si on les laisse, ils ne vont pas se développer. Puis rester des nouveaux-nés spirituels toute leur vie, ou pire encore, sur le bord de la route. Là, le Samaritain, il n'a pas juste été bougé dans ses entrailles. Il s'est approché, il ne s'est pas juste approché, il n'a pas juste versé de l'huile, l'onction, prié, déversé sa grâce. Mais il va le prendre sur sa monture, il ne va pas s'arrêter là. C'est-à-dire qu'il va le porter comme sur son propre appel, sur son propre ministère. Il va mettre ses propres dons au bénéfice de ce nouveau-né. Et c'est toujours la réponse. Comment vivre la vie éternelle? Comment vivre ce réveil? Et pour moi, c'est l'étape d'après la compassion. C'est qu'à un moment donné, on prie, on libère cette onction, cette grâce, mais on va comme s'impliquer et porter l'autre. Il a porté l'autre. On va se donner pour l'autre. C'est pas juste prier pour les malades. C'est porter l'autre. Et c'est ça le ministère. C'est lorsqu'on donne qui on est pour porter l'autre. Et le Samaritain va donner qui il est pour le porter, afin que l'autre puisse être totalement rétabli, que le blessé, ou plutôt le nouvellement guéri, ou le nouveau-né spirituel, puisse marcher par lui-même quand il sera assez fort. Pour l'instant, il le porte. Et pour moi, c'est une clé pour voir des gens sauvés, ne pas s'arrêter aux premières étapes, mais ensuite les accompagner et puis de les porter. Et ce qui est beau, c'est que ce n'est pas juste un poids à vie. Je veux dire, le Samaritain, il y en a peut-être d'autres à soigner dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va amener, il va l'amener à l'auberge. Tant mieux, il y en a d'autres aussi qui vont peut-être pouvoir prendre le relais. J'amène quelqu'un au Seigneur et je l'amène à l'auberge. Je l'amène aussi quelque part à l'église. Ils pourront s'occuper d'eux là. C'est vrai que l'église, c'est un des meilleurs endroits pour quelqu'un qui vient d'être guéri, qui est délivré et sauvé. Mais il n'a pas attendu que ce soit l'église qui le fasse. Je crois qu'on est tous appelés à guérir, à libérer, à sauver des gens. Et pour moi, c'est ça la clé du réveil. C'est lorsque chacun, on a cette huile et ce vin avec nous. Et pas juste à l'auberge, sinon on est à côté de l'auberge là. Mais il l'amène à l'auberge. Et ce mot qui est traduit par auberge, ça veut dire une auberge, un lieu public pour la réception des étrangers. C'est-à-dire un lieu ouvert où on accueille celui qui vient d'ailleurs. Et moi, ça me parle. Pour moi, c'est ça l'Église. C'est la maison de Dieu, où sa présence, la présence de Dieu se manifeste. Ce n'est pas juste pour nous, mais c'est ouvert pour les gens qui viennent d'un autre royaume, pour les gens qui viennent d'ailleurs, pour les gens qui ne viennent pas de ce royaume de la lumière. C'est-à-dire que c'est un lieu ouvert pour les gens qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas encore convertis quelque part. Et pour moi, c'est tellement ça, on a dans notre cœur, vraiment ici à l'Église Passion. Ce n'est pas juste de vivre des réunions juste pour les initiés, ou c'est bizarre, où on vit notre petit groupe ressource, puis il ne faut surtout pas que quelqu'un qui n'est pas encore vraiment chrétien ou qui est blessé vienne, parce que ça va bouleverser notre petite amitié et notre club. Non, on veut être ouvert pour accepter dans nos maisons et ici des personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. C'est ça la maison, ouvert aux gens, c'est un lieu public ouvert aux gens qui viennent d'ailleurs. Et il est mis au verset 34. Est-ce que le Samaritain, est-ce qu'il va juste laisser le pro de l'auberge s'en occuper? Non. Il est mis, et je trouve intéressant, il le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Il a continué de prendre soin de lui. Et je pense que c'est une des clés. Quand on amène celui qui se tourne vers Dieu, qui a reçu le salut, la guérison à la maison de Dieu, on va continuer de s'en occuper. Si vous amenez quelqu'un, continuez de vous en occuper. On ne va pas juste sous-traiter au prêtre puis au lévite, qu'on a entendu d'avant, ou encore à l'aubergiste. J'ai porté l'autre sur ma monture, c'est-à-dire que je l'ai porté avec qui je suis, avec mon appel, ma vie. Mais une fois qu'il est dans la maison de Dieu, je continue de le porter dans mon cœur, je continue de faire ce que je peux, même entouré peut-être par d'autres, aidé par d'autres, mais je continue de le porter. Il est toujours là dans mon cœur. Et pour moi, c'est vraiment une clé pour le réveil, pour impacter une région. C'est quand on ne va pas juste amener, je t'amène à l'auberge, c'est cool, puis moi je repars, puis on verra ce que ça donne. Il va s'en occuper et il s'assure que la personne, jusqu'à ce qu'elle soit entièrement rétablie et guérie. Et je crois que ce n'est pas possible que juste les responsables de l'auberge ou de la maison ou de l'église s'en occupent. On peut le faire, bien sûr, mais c'est en nombre limité, mathématiquement, au niveau de l'agenda. Si chaque personne qui a été bougée dans l'amour, qui a amené cette liberté, cette guérison, cette onction, l'huile et le vin, porte l'autre et continue de le porter dans son cœur, ça va faire de la différence. C'est ça qui va multiplier le nombre de personnes qui finalement arrivent à marcher d'eux-mêmes. C'est ça faire des disciples. C'est ça faire des disciples. Et j'aime Jésus qui désire que chaque personne continue le ministère que lui, il avait en demandant d'envoyer au Père, d'envoyer des ouvriers dans la moisson. J'aime Jésus qui aime l'Église. C'est lui-même qui l'a inventé, institué. Et le Samaritain ne va pas juste amener le blessé chez lui pour faire son propre business. Non, il l'amène à l'auberge, cette maison du Seigneur, ouverte aux gens d'un autre royaume. Et le verset suivant montre un aspect intéressant. Je ne vais pas faire trop long sur ce verset, mais il est dit « Le lendemain, le Samaritain sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de lui. Et si tu dépenses quelque chose de plus, ben je reviendrai à mon retour, je te le rendrai à mon retour. » Et ce qui est fort, même s'il a donné qui il est en le portant, il a continué d'en prendre soin encore dans la maison. À un moment donné, ben il continue son chemin. Il va faire en sorte que ceux de l'auberge puissent s'en occuper. Et ça a un coût. Le coût de l'auberge, le coût de l'aubergiste. Et moi, ce qui est frappant, c'est que le Samaritain, il s'en rend compte. Il ne se dit pas que le blessé est maintenant juste à être assumé par l'auberge, mais il sait qu'il a encore besoin de soins, que lui ne peut peut-être pas donner avec son emploi du temps, il continue son chemin, mais il va investir pour que ça puisse être fait. Et ce qui est très fou, c'est trop fou pour que je zappe juste ce petit point, fermez vos oreilles si c'est trop piquant, mais moi, je veux quand même le dire, parce que moi, j'ai envie de tout le truc, mais... Et vous savez ce que j'ai découvert, et moi je ne crois pas au hasard, c'est que le Samaritain, il donne 2 pièces, c'est 2 deniers, le mot c'est denier d'ailleurs. Il donne 2 deniers à l'auberge. 1 denier, ça correspond à quoi ? À 1 jour de salaire. Il donne 2 jours de salaire. En fait, aujourd'hui, ça correspond à ça, à 2 jours de salaire. Je ne vais pas donner à... Ça correspond à quoi, 2 jours de salaire ? Je ne vais pas sortir un chiffre. Mais je m'occupe, dans l'entreprise que je dirige à côté... de mon emploi ici en tant que pasteur, je m'occupe des ressources humaines et notamment des salaires. Et en Suisse, les salaires, c'est souvent entre 19 et 21 jours ouvrables. 20 en moyenne. 2 jours de salaire. Le Samaritain, il donne à l'auberge, ça fait 10%. Pile la dîme. Il est quand même fort, hein, Jésus, avec ses paraboles. Je ne crois pas au hasard. Vous pouvez bientôt rouvrir vos oreilles si ça vous dérange. Mais je ne crois pas au hasard, mais ce Samaritain, il est remué en lui. De compassion, il a un cœur selon Dieu, il va au bout, il donne sa vie, son temps, son ministère, et il ne va pas donner 1 demi-denier ou 1 denier, il donne ses 2 deniers. Et je ne vais pas faire un message, ce n'était pas le but de parler de ça, mais je me suis dit, j'en parle, je fais la totale quand même cette parabole, parce que ça me parle déjà à moi, personnellement, de rester fidèle aussi dans ce domaine-là, par ma vie, et de laisser Dieu remuer dans mes entrailles, de consentir à me laisser bouger dans l'amour. Moi, j'ai envie d'aller au bout. Et pas juste le refiler à d'autres gens, mais de le porter, même quand j'amène la personne à la maison de Dieu, cette maison ouverte aux gens d'un autre royaume. J'ai envie aussi de me donner mon temps, qui je suis, et même mon argent. Et cette parabole, c'est une réponse à comment vivre cette vie éternelle, c'est-à-dire cette vie sans limite. C'est un peu... quand le gars dit « Mais comment faire pour avoir cette vie éternelle ?» Ben, Jésus lui répond « Voilà, c'est un amour entier. » T'aimes Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, tu aimes ton prochain comme toi-même, c'est ce qu'on a vu déjà dans le message. Puis voilà ce que c'est l'amour, c'est de s'arrêter, c'est d'être remué par la compassion, c'est de se donner, c'est d'avoir cette onction sur toi, cette grâce que tu as développée dans la présence de Dieu, que tu déverses, c'est donner tout ce que tu as, qui tu es. Et finissons juste avec les 2 derniers versets où Jésus dit « Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé entre les mains des voleurs ?» Et il lui dit « L'homme de loi répond, c'est celui qui a été bon pour lui. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Toi fais de même. Et c'est la conclusion et la question de comment vivre cette vie éternelle, c'est fait de même. Et la réponse, c'est de se laisser bouger dans cet amour. C'est donc la totale. Et cette réponse à sa réponse, Jésus va lui dire, mais fais-le aussi toi-même. Pas juste l'aubergiste, Mais toi-même, chacun, si chacun en fait ça, vous imaginez l'impact. C'est pour ça qu'il donne cette parabole aussi. Et pour moi, c'est ça le chemin du réveil. Si on désire vivre pleinement l'onction de guérison, de délivrance, de grâce, cet amour, ce bébé amour qui est tellement grand qu'on le sent bouger, c'est ça l'amour pour le prochain. Et pour moi, c'est ça être vivaliste. C'est quand on répond à cette compassion qui bouge en nous et puis qu'on va déverser cette huile qu'on a développée dans le secret et cette grâce comme ce vin. Et je suis convaincu que ce n'est pas juste l'aubergiste qui va faire des disciples. Jésus a fait 12 disciples, mais il a envoyé ses disciples à faire des disciples. Et ça s'est c'est pour ça que ça s'est multiplié, puis que 2000 ans après, encore aujourd'hui, on en parle. C'est un mandat pour tous. D'ailleurs, il leur dit, mais faites de toutes les nations des disciples. Ce n'est pas juste des gens guéris, sauvés, mais c'est des gens qu'on va ensuite personnellement prendre du temps avec, qu'on va déverser notre vie, l'onction qu'on a en nous, cette grâce. On va les porter, on va investir notre temps, on va tout donner. Et on va les amener à la maison du Seigneur. C'est ça la clé du réveil. Mais qui va aller jusqu'au bout? Est-ce qu'on va être prêt à se donner entièrement? Est-ce qu'on veut vraiment cette vie éternelle, cette revie? Et je crois que ce matin, il y a un appel à être saisi tout à nouveau dans cet amour. Et surtout aussi, c'est ce qu'on a vécu surtout il y a 2 semaines, mais j'aimerais insister ce matin sur le fait d'avoir cette huile avec soi, cette onction et aussi cette grâce, ce vin qui est développé dans l'intimité et l'abandon à Dieu. Et être tellement touché aussi qu'on est même prêt à donner sa monture. C'est-à-dire que les pensées, le ministère, nos dons, ça ne sera pas juste pour s'édifier soi-même, mais ça sera pour l'autre qui a tellement besoin. Il y a tellement de gens qui ont des besoins. Et je crois qu'il y a vraiment cet appel ce matin pour tous d'être des revivalistes, c'est-à-dire des déclencheurs de vie, de revie pour les autres. Et c'est ça la réponse à la question que pose cet homme de loi, Jésus. Comment vivre cette vie du ciel, cette vie éternelle? Et j'aimerais prier pour terminer. Je propose peut-être qu'on se lève tous ensemble pour terminer ce message. Seigneur, je te prie que tu nous donnes un cœur tel que notre but, ça ne va pas être de voir des guérisons pour une démonstration de puissance, pour qu'enfin le monde voit que tu es puissant. Mais Seigneur, parce qu'on a été saisi d'amour, de compassion, et qu'on a tellement envie que les gens autour de nous, ils soient touchés dans leur cœur, dans leur solitude, dans leur détresse, dans leur corps, dans leur maladie, dans leur perdition, et qu'ils soient sauvés, qu'ils soient libérés, qu'ils soient comblés, qu'ils soient remplis de paix, et qu'ils soient guéris, même physiquement. Seigneur, je te prie, fais grandir ce bébé amour. Fais grandir cet amour dans nos entrailles, pour que je le sente bouger, quand tu bouges pour l'autre. Fais grandir, Seigneur. Et Seigneur, je te prie de venir aussi faire grandir cette passion pour ta présence, pour que tu puisses faire de ces temps et de ma vie une huile. Je ne veux pas juste, Seigneur, une huile parce que quelqu'un prêche ou j'entends quelqu'un prier ou quelqu'un prie pour moi. Seigneur, cette huile d'onction, elle va venir du temps que je passe entre toi et moi. Et Seigneur, moi je veux dire ce matin, je veux être prêt à m'abandonner, à prendre du temps, à investir de ma vie et que tu viennes presser mon cœur. Viens presser ma vie, Seigneur. Viens extraire cette onction que tu as mis dans ma vie, mais viens l'extraire pour qu'elle puisse couler sur les gens qui m'entourent. J'ai envie de te dire oui, Seigneur. J'ai envie aussi, Seigneur, de réaliser la grâce que tu m'as faite. Tu m'aimes, je suis tellement imparfait, mais tu m'as aimé. Et je veux répandre ce vin et faire grâce autour de moi à des gens tellement imparfaits aussi. Je veux répandre cette huile et ce vin. Je veux être ce Samaritain. Je veux avoir ce cœur de Samaritain. Et Seigneur, je veux aussi être prêt à me donner qui je suis et ce que j'ai pour que le réveil vienne et m'investir pour ça. Et je te prie, Seigneur, de venir nous toucher ce matin. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens répandre cette huile. Viens répandre cette onction. On a tellement envie, Seigneur, de ne pas être insensible face aux autres. Viens raviver. Viens faire grandir ce bébé. Cet amour, cette compassion. Qu'on puisse être saisi comme toi, tu l'étais. Et c'est seulement quand tu étais saisi que les miracles ont suivi. Et Seigneur, tel chemin. Et j'aimerais être comme toi, Jésus. Qui te laisse être saisi et où les choses se passaient après. Alléluia. Et je sens ce matin que Dieu veut comme déverser quelque chose au niveau de sa présence et de son onction. Pour certains, pour d'autres, c'est de laisser ce bébé amour, cette compassion, peut-être tu ne le sens jamais, tu dis, mais moi j'ai envie de le sentir. Ben, que tu puisses simplement aussi demander à Dieu. Peut-être que Dieu t'a parlé sur une chose en particulier. Soit pour laisser cet amour grandir en toi, ou soit dire, mais Seigneur, moi je veux m'abandonner parce que j'ai envie, je veux m'abandonner à toi parce que je désire être pressé, je désire avoir plus d'onction et de grâce. Ou Seigneur, j'ai simplement besoin d'un déversement d'onction ce matin, j'ai juste besoin d'être rafraîchi. Et je crois que Dieu parle à tous, on pourrait tous venir ici devant, mais je crois qu'il y a un rendez-vous pour plusieurs en particulier. Dieu, il a parlé par plusieurs paroles, aussi prophétiques pendant la louange. Et je crois que Dieu veut agir et répondre. Et je crois que c'est aussi une façon des fois de dire, Seigneur, ça m'interpelle vraiment de façon particulière ce matin. Et je suis prêt. C'est ça le petit ok, je consens, je marche, je cours. C'est ce qu'a fait le Samaritain, aussi le Père. Je dis ok. Et je t'encourage, si tu le sens dans ton cœur, dire ok, bah viens ici devant. Et on a envie de prier pour toi. Soit pour que tu aies plus de cette compassion et d'amour, soit parce que tu t'abandonnes pour que cette onction puisse se manifester, soit simplement pour que cette onction se déverse sur toi. Et Dieu est là ce matin. Le Saint-Esprit est là ce matin. Il est là. Que tu le sentes ou pas, il est là. Pas juste parce qu'il me l'a dit, mais parce qu'il est là. Et je te prie, Seigneur, de te manifester. Et je t'encourage. Si tu as été touché d'une façon particulière, tu sens que c'est un rendez-vous aujourd'hui, Dieu t'a parlé, alors écoute pas trois fois, mais sors du rang, dérange la personne à côté et va au-delà de la bienséance, même si c'est pas malséant, mais viens ici devant et viens saisir cette onction. Sois ce revivaliste. Dieu cherche des hommes et des femmes. Il cherche des ouvriers dans la moisson, des gens qui sont prêts à être saisis, à être bouleversés. Sois un déclencheur de vie, sois un déclencheur de revie, un déclencheur de réveil, sois une revivaliste et sois touché puissamment. Dieu veut le faire parce qu'il veut impacter cette région. Il y a trop de gens qui se perdent. Il y a trop de gens qui se perdent dans cette région, dans ta ville, dans ton village, à ton job, dans ta famille. Il y a trop de gens qui se perdent. Viens Saint-Esprit, répands ta vie. Répands ta vie, viens toucher Seigneur. J'encourage les équipiers à venir, à aller prier. Et toi qui es encore touché, viens simplement encore devant. Et réponds à ce message. Viens Seigneur.